Chers frères et sœurs, bonjour. Oui, les ados doivent sortir. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et peut-être de manière paradoxale, je voudrais vous parler d'un petit texte des évangiles, d'un évangile, l'évangile de Jean, qui parle d'un disciple connu pour son manque de foi. Si je vous dis, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Thomas était un des disciples et on le connaît essentiellement pour ça, il a fait sans doute bien d'autres choses. Nous sommes sans doute un peu injustes à son encontre, mais c'est tout de même ce texte qui le caractérise dans la mémoire populaire. Et j'aimerais que nous le lisions, ce texte. C'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 20, au verset 24. Alors, c'est après la résurrection de Jésus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Vous comprenez qu'il y a un premier épisode où Jésus s'est présenté aux disciples après la résurrection, bien vivant, et puis Thomas n'était pas là. C'était un dimanche soir. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais !» 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Merci Thomas. Merci Thomas. Je me sens moins seul. C'est vrai, on est tous un peu comme Thomas. Bien sûr, ce matin, on a chanté, merci beaucoup au groupe de ce matin, la louange de Dieu, le fait qu'on peut avoir foi en lui. Mais attendez, il y a des moments où on n'y est pas, quoi. Merci Thomas, tu as eu le courage toi d'aller jusqu'au bout de ta difficulté de croire. Nous, on a peine à se dévoiler. Nous ne prêtons pas foi à tout ce qu'on raconte, nous ne nous laissons pas berner par les beaux parleurs. Alors peut-être nous avons peur de nous laisser avoir par un discours qui est donné à l'Église aussi. Par souci de ne pas être crédule ou naïf, nous en sommes devenus méfiants. Reprenons le fil de cette histoire. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, après la résurrection de Jésus. Ce récit que je viens de lire est seulement dans l'évangile de Jean. Jésus s'est montré vivant à ses disciples. C'est l'épisode précédent, je récapitule, versets 19 à 24. Les disciples, bien sûr, ils disent à Thomas, on a vu le Seigneur quand même. Thomas n'en croit pas un mot. Une semaine après, Jésus revient. Thomas est présent et nous avons le dialogue que j'ai lu. En gros, Thomas n'était pas le dimanche à l'église et il a loupé quelque chose. Puisque c'est écrit qu'il se réunissait le dimanche. C'est un peu forcé, hein, mon application là, c'est un peu forcé. Mais bon, c'était un dimanche, soir, certes, et il n'était pas là et il n'a pas vu le Seigneur ressuscité. Encourageant pour nous à venir voir des baptêmes comme dimanche dernier ou d'autres choses. Jésus répond à la demande de Thomas. Thomas ne voulait pas croire à moins qu'il voie. Il était dans une demande très précise de toucher, de voir lui-même, de comprendre, de voir les choses directement. Il ne se contentait pas des discours des autres. Et Jésus a répondu à cette demande. Thomas voulait toucher les cicatrices de Jésus. Jésus va lui montrer ses cicatrices. Thomas voulait vérifier la blessure de Jésus au flanc. Jésus lui dit, mets ta main, tu vas toucher ma cicatrice. Jésus avait bien compris la difficulté de Thomas et son besoin d'un signe concret. Et nous arrivons ainsi à la question fondamentale que pose ce récit, la manifestation de Dieu. Comment Dieu se manifeste ? Pour Thomas, ça c'est devenu très simple. Il a pu toucher Jésus et après, il a conclu « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est lui-même, de ses propres mains, qui l'a touché Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Il n'est pas de l'autre côté de la porte. Nous n'allons pas, en sortant de l'église, pouvoir toucher ses cicatrices, ses mains, son côté. Alors nous penchons sur la Bible. Nous lisons ces récits dans la Bible qui racontent toutes ces choses. Mais il faut là encore avoir confiance en ce qu'on nous dit. Parce que la Bible, c'est quelque chose qui vient de très loin. C'est un livre que certes nous considérons, et à juste titre, j'en suis convaincu, comme la parole de Dieu. Mais peut-être que le doux, il nous assaille de temps en temps et nous dit, mais ce livre qui vient de si loin. Merci Thomas, nous avons aussi du mal à croire. Si nous sommes comme Thomas, à ne croire que ce que nous voyons, nous n'aurons cependant pas la même réponse que lui. Sauf que Thomas, lorsqu'il a vu que c'était bien Jésus, a agi tout de suite. Il a adoré Jésus. Mais prenons un peu de distance par rapport à cela. Dans les évangiles, d'autres personnes que Thomas ont vu des miracles, des guérisons, de toutes sortes de multiplications de nourriture. Et tout le monde n'a pas réagi comme Thomas. Il y a eu des témoins des miracles de Jésus qui n'ont rien fait après, qui ont même accusé Jésus, qui se sont retournés contre lui. C'était tout l'inverse de ce que Thomas, toute la réaction de Thomas. Hein, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, enfin vraiment un refus total de Jésus, après avoir été témoin de choses extraordinaires. Nous n'avons pas dans la Bible des récits enluminés où tout le monde se met à genoux devant Jésus à chaque miracle. Ce n'est pas ça que nous racontent les évangiles. Des témoins de miracles, comme je viens de le dire, se sont voilés la face, ont refusé de reconnaître l'évidence qui s'imposait pourtant à eux. Nous avons vu cela dans les études des groupes de maison sur l'évangile de Matthieu. Et puis, dans cette idée, Jésus a même refusé de faire des miracles. Pour Thomas, il a accepté. Mais à d'autres moments des évangiles, il a refusé de faire des miracles, notamment à Nazareth. Parce que les gens avaient d'entrée une opposition contre lui. J'ajoute que si Jésus s'exprimait très souvent au moyen de petites histoires énigmatiques, que nous appelons les paraboles, plutôt que par un discours plus clair, plus direct, c'était pour ne pas imposer la vérité à l'ensemble de ses auditeurs, mais pour les conduire à la découvrir eux-mêmes. Donc les miracles, ce n'est pas le tout de la révélation de Dieu, de la manifestation de Dieu. Jésus a répondu à Thomas, mais à d'autres, il a répondu différemment. La question des signes, alors les signes, c'est un mot dans la Bible pour dire les miracles. C'est un signe que Dieu est puissant. La question des signes est donc pas si simple. C'est pas juste, il suffit de voir un signe de Dieu, de sa puissance, et hop, on se convertit. Aujourd'hui, Dieu se manifeste toujours. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de signes. Les signes de sa puissance existent. Des faits surnaturels, des guérisons, il y en a. Sachons nous en réjouir devant Dieu. Sachons reconnaître ces signes comme des signes de Dieu. Mais le dialogue de Jésus avec Thomas n'est pas fini, ne s'arrête pas là. Et le récit aurait pu s'arrêter, mon Seigneur et mon Dieu, et ça aurait été une belle fin. Mais Jésus ajoute quelque chose. À vrai dire, c'est même assez déconcertant ce qu'il ajoute. heureux, enfin, Thomas, c'est presque un reproche d'ailleurs. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Il t'a fallu ça, Thomas, pour me dire mon Seigneur et mon Dieu. Tu as eu besoin de toucher mes plaies. Mais j'ai quelque chose de mieux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas, tu n'as eu que la foi des yeux. Moi, je te propose la foi du cœur. Jésus dresse cette préférence clairement. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Prenez par exemple le discours de la Pentecôte. Il y a eu des milliers de personnes qui ont répondu à l'appel de Pierre. Il n'y a pas de récit de guérison. Le seul miracle que l'on voit, il y en a quand même eu un. C'était que les disciples qui devenaient les apôtres, les envoyés de Jésus, se sont mis à parler de plusieurs langues. Mais les gens ont eu le cœur vivement touché. C'est par le message que Pierre délivrait qu'ils ont été touchés. Et c'est à ce message-là qu'ils ont répondu. Dans le monde aujourd'hui, nous chrétiens, sommes des millions à ne pas avoir vu Jésus, en chair et en os, à ne pas avoir forcément été témoins de tel ou tel fait extraordinaire. Certains d'entre nous en ont témoigné pour leur propre vie, mais pas tous. Mais en revanche, ce qui nous unit, c'est que nous avons été touchés au cœur par le message qui nous a été rappelé dans les chants tout à l'heure. Cela nous conduit à une notion de l'Église, de Jésus-Christ, de l'Église universelle. Nous ne sommes pas des collectionneurs de signes, des gens qui vont chercher toujours l'extraordinaire. Même si Dieu est capable de ces choses, nous en sommes tous convaincus. Mais est-ce que nous allons faire notre vie de ces seuls miracles? Est-ce que nous allons être toujours à la recherche du dernier fait extraordinaire, du dernier récit de miracle? Toujours à vouloir vivre une expérience surnaturelle de la puissance de Dieu? Nous serions alors des séméiophiles. Ça veut dire des collectionneurs de signes. Sommes-nous simplement des collectionneurs de signes, comme d'autres seraient des philatélistes, collectionneurs de timbres, ou des ludophiles, collectionneurs de jeux et de jouets? Sommes-nous de simples amateurs de récits extraordinaires, de biographies formidables? Nous nourrissons-nous de ces choses-là? Ou alors, avons-nous notre foi vrillée au cœur? L'Église est plus qu'une simple collection de séméiophiles. Séméion en grec, ça veut dire signe. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes heureux de ce bonheur-là. Et même si nous avons vu des miracles, ça ne va pas nourrir toute notre foi. C'est ce que dit Jésus. Heureux. Jésus préfère la foi du cœur à celle des yeux. Cette foi nous rend plus heureux que Thomas. C'est ce que Jésus lui dit. Toi, tu as cru parce que tu as vu. Heureux, sous-entendant plus heureux que toi, ceux qui croient sans avoir vu. Cette foi nous est ouverte à tous, témoins ou non d'un fait extraordinaire. Cette foi est l'aboutissement d'un chemin intérieur, d'une décision, d'une sincère prise de conscience, de quelque chose de beaucoup plus profond dans nos vies qu'un simple constat. Il s'agit d'un cœur touché par la grâce de Dieu qui pardonne. Et nous avons entendu dimanche dernier un témoignage qui illustrait cela très bien. Et même devant un miracle, je vous rappelle les récits qui sont rapportés dans les évangiles, enfin certains récits, où des gens témoins d'un miracle refusaient d'accepter Jésus comme le Messie. Donc même devant un miracle, la foi des yeux aura besoin de la foi du cœur. Cette foi, c'est de dire que Jésus est mon sauveur, qu'il me sauve de la perdition. Cette foi, c'est d'être convaincu dans mon fort intérieur qu'il est mon Seigneur pour la vie, d'une manière personnelle, intime, réfléchie, et non en simple réaction à ce qui m'aurait touché ou frappé. C'est le contenu de la foi qui compte, la parole que Dieu nous adresse et qui vient nous toucher. Ainsi, oui, nous sommes, chers frères et sœurs, plus heureux que Thomas. Nous sommes heureux de croire, dans notre fort intérieur le plus intime, que Jésus est le Messie. Nous sommes heureux d'affirmer que Dieu est le Créateur. Nous sommes heureux de dire que l'Esprit de Dieu vit en nous, de nous souvenir que la Bible que nous avons entre nos mains est la parole de Dieu. Nous sommes heureux à former un peuple avec des millions d'autres autour du Christ ressuscité. Nous sommes heureux parce que Dieu nous aime. Nous sommes heureux parce qu'il se porte garant de notre avenir éternel. Nous sommes heureuses et heureux parce qu'à ses yeux, nous avons de la valeur. Nous sommes heureux de pouvoir l'appeler Père, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous sommes heureux parce qu'il est fidèle à 100%, au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Nous sommes heureuses et heureux parce qu'il est parfaitement sage, notre Dieu, juste et bon, parce qu'il nous entend, nous comprend, qu'il ne nous lâchera jamais. Cette foi-là, parce qu'elle vient du cœur, est la plus solide, nous rend heureux. Pensons aux chrétiens qui, dans certains pays, mardi dernier, c'était là, il y avait une manifestation sur la place de la Réunion contre l'antisémitisme, je rencontre un ami qui était accompagné d'une chrétienne irakienne, réfugiée politique en France, en raison de la persécution religieuse contre les chrétiens en Irak. Qu'avait-elle, elle, à constater au milieu des persécutions et de la difficulté pour ancrer sa foi sur ce qu'elle allait voir ? Rien. La foi dans ces pays de persécution, c'est une prise de risque. C'est une mise en danger. Ce n'est pas parce qu'on a vu un miracle, c'est parce qu'on a décidé de donner sa vie à Dieu et d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Cette foi-là nous rend heureux. Alors travaillons-la. Bravo d'être venu ce matin. Parce que vous êtes venu, nous sommes venus, moi aussi, pour nourrir notre foi, pour la consolider, pour la faire vivre, pour l'arroser, pour mettre de l'engrais, pour l'étayer, mettre un tuteur, je ne sais quelle image vous sera la plus chère. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de chérir ce trésor que Dieu a placé en nous, de la foi en Jésus-Christ. Participons au groupe, lisons notre Bible, consolidons toujours et encore cette foi qui fait de nous le peuple de Dieu. J'ai pris un peu ma distance avec les signes, et pourtant je voudrais y revenir avec un signe dont je n'ai pas encore parlé. Nous sommes un signe pour les personnes qui nous entourent. Nous avons cette fonction de lumière. Jésus a dit « Vous êtes », comme si c'était de la flatterie, mais non, c'est un défi qui nous est lancé. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes, dit l'apôtre Paul, ambassadeurs. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance honorifique, pour nous flatter. Il s'agit d'un défi, d'une fonction qui nous est lancée. Un défi qui nous est lancé, d'une fonction qui nous est proposée. Cette fonction, c'est d'être signe de Dieu dans ce monde. Nos voisins ont besoin d'un signe. Sont des Thomas, comme nous le sommes un peu aussi. Et ils ont besoin de voir des chrétiennes et des chrétiens qui sont des signes, qui manifestent que Dieu est là. Comment allons-nous être des signes en vivant en tant qu'Église, en vivant heureux, en agissant dans cette société, en ayant de bonnes relations entre nous, en ayant chacun une foi vécue en Jésus-Christ, alors que notre Église soit ce beau signe qui est donné au monde, et que des Thomas viennent et de dire « Je veux mettre ma main là, je veux toucher, je veux voir ces chrétiens qui sont un signe, je veux constater moi-même, et j'espère, et je pense qu'ils constateront que Dieu est présent, que Dieu est vivant au travers de notre vie. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu sais répondre à nos interrogations comme celle de Thomas. Tu ne nous rejettes pas comme tu n'as pas rejeté Thomas, tu as répondu à sa demande. Mais Seigneur, nous ne voulons pas en rester à simplement nous réjouir de miracles, de guérisons, de signes de ta puissance. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons la foi du cœur. Nous voulons ensemble placer dans nos cœurs, dans nos forts intérieurs, dans nos intimités, chacune, chacun, cette proclamation que tu es le Créateur, que tu nous appelles à vivre avec toi, que tu nous offres le pardon en Jésus-Christ et qu'il nous faut le saisir et marcher jour après jour dans les voies que tu ouvres devant nous. Et Seigneur, qu'ensemble nous soyons aussi ce signe pour les Thomas qui nous entourent et qu'ils puissent venir et toucher et ensuite dire devant ton trône, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.